La confession nocturne. Ce que j'ai à vous raconter pourrait aussi bien se passer à Paris qu'à Londres, à Madrid qu'à Genève, à Vienne qu'à Amsterdam, et cependant c'est à Venise que je fus témoin du curieux spectacle que je veux vous rapporter. Ne croyez donc pas que j'ai choisi cette ville célèbre pour donner de la couleur à mon histoire ou pour me fournir un prétexte à des descriptions qui ne vous en apprendraient guère que ce que vous en savez sans doute déjà. Ainsi, rassurez-vous, je ne vous vanterai pas le charme mystérieux de la cité incomparable, je ne m'exalterai pas sur la beauté lumineuse de la lagune, sur la complexité dédalienne des canaux, sur le pittoresque inextricable des calis. Je vous ferai grâce des gondoles et je ne les comparerai ni à des cygnes noirs à la façon des romantiques, ni à des quartiers de lune funèbres à la manière des décadents. Je ne vous ferai pas remarquer l'élégance toute égyptienne de leur fer de proue dentelé qui fait songer à l'épervier sacré qui s'épouillait au front de la reine Cléopâtre, ni les rapports que l'on peut découvrir entre la batte d'Arlequin et la rame du Barcarolle. De même, je vous épargnerai la visite des musées et des églises et les dissertations sur l'architecture des façades dont s'enorgueillissaient les principaux palais. Je ne vous mènerai pas ce que je connais et que vous ignorez, et qui, dans certains quartiers retirés et lointains, cachent derrière leur décrépitude des jardins minuscules et charmants, où poussent des courges baroques et où fleurissent des sauges écarlates. Je ne vous demanderai d'entrer ni au palais ducal, ni dans la basilique de San Marco. Je ne vous promènerai pas sur la piazzetta ou sous les arcades des procurati, neuves ou vieilles. Je ne vous ferai asseoir ni au café Quadri, ni même au café Florian, dont les petites salles peintes sont si hospitalières qu'elles restent ouvertes jour et nuit. Non, non, venez seulement avec moi jusqu'à San Moïse. Prenons cette calle obscure, encore quelques pas, c'est ici. Maintenant, poussez cette porte et entrez. Le bar Catamuzzi, où nous sommes, est un des mieux achalandés et des mieux fournis de Venise, celui où les lampes électriques sont les plus aveuglantes, où la lumière est la plus crue, où tout vous isole le mieux de l'étonnant décor mélangé de byzantin et de rococo où vous avez vécu tout le jour. En entrant là, vous laissez au seuil tous les rêves dont votre romantisme s'est enivré. Venise est vivante d'un prestige qui nous capte en son sortilège. Il nous met aux épaules la baouta de Saint-Noir, le satin noir et au visage le masque de carton blanc. Qui ne s'est imaginé participer à son carnaval et y poursuivre des aventures à la Casanova et à la Gozzi? Qui ne s'est vu en pensée, pénétrant dans les salles du Ridotto, et poussant des sequins d'or sur la table du pharaon? Venise se prête merveilleusement à ce besoin de vie imaginaire qui est en nous, mais toutes ces fantasmagories s'évanouissent au seuil du bar Catamuzzi. Là, vous êtes dans un lieu vraiment et exclusivement moderne. Je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas plus à Venise qu'à Paris, à Londres ou à Amsterdam ou ailleurs. Devant vous, le comptoir dresse ses nickels et ses cristaux étincelants. 100 flacons recèlent tous les alcools. Le barman, en veste blanche, officie avec des gestes précis et compose des breuvages mathématiquement calculés. Autour des petites tables, luisantes et rondes, sont assis des gens d'aujourd'hui. Tout y est de notre temps et nulle part le sortilège vénitien ne s'exerce moins que là. On y redevient soi-même et on y abandonne tous les déguisements romanesques dont on s'est affublé à sa fantaisie. C'est pour cela que parfois, quand je suis à Venise et que je m'y sens trop dominé par elle, j'entre dans ce bar Catamuzzi. Je m'assieds à une des petites tables rondes, et grâce à la lumière lente, nette et violente, aux éclairs du nickel et des cristaux, à cette modernité banale qui m'entoure, je m'y délivre un instant de Venise et de ses enchantements. Je reprends pied dans la réalité. Le bar Catamuzzi est parfait, pour ses cures momentanées. J'étais donc là, un soir, assis à une des tables rondes. Autour de moi, sous la lumière éclatante, on consommait et on parlait. Je m'amusais à des bribes de conversation saisies au vol, tout en observant le public qui remplissait l'établissement. Il était composé, autant que j'en pouvais juger, de commis de banque et de magasins, d'employés de petits bourgeois et de quelques étrangers. Tous ces gens éprouvaient un plaisir évident à se trouver dans ce lieu bien éclairé, propre, net, méthodique. Cela les reposait du dédale vénitien, des cahiers obscurs, des canaux, de la noble vétusté des maisons qu'ils habitaient sans doute. Ils causaient bruyamment. Parfois, la porte s'ouvrait pour une sortie ou une entrée. Je remarquais à peine celle du personnage qui devait bientôt attirer mon attention. Ce n'est que lorsqu'il fut debout devant le comptoir que je m'aperçus de sa présence. C'était un homme d'un certain âge, d'aspect minable et d'allure craintive. Il était vêtu d'une redingote extrêmement râpée mais très propre. Son pantalon usagé tombait sur des souliers déformés par l'usure. De taille moyenne, maigre et voûté, il semblait mal à l'aise d'exhiber sa pauvreté sous cet éclairage brutal. Cette attitude, si humble et si embarrassée, me fit le dévisager plus soigneusement. Sa face rasée était morne et insignifiante. Il était du type de ces gens à qui la vie n'a pas réussi, qui en sont les épaves médiocres et qui en gardent une sorte de timidité. Tout en lui, disait l'échec et le déboire. Il évoquait une de ces fins d'existence lamentables et quelconques qui s'achèvent dans l'abandon et la solitude. Sans doute, ce soir, il avait éprouvé le besoin d'un peu de chaleur et de lumière, et il était entré dans ce bar, pour se sentir un instant moins seul et peut-être pour y trouver en quelque alcool une minute d'oubli. Cependant, il avait fait un signe au barman et je vis sa main tremblante se tendre vers le verre commandé. Il le tenait maintenant entre ses doigts et le serrait comme s'il eût craint de le laisser tomber. Il s'était tourné de mon côté, je le voyais très distinctement. Je fus frappé du changement subit et profond de sa figure. Tout à l'heure insignifiante et quelconque, elle avait pris soudain une solennelle expression de gravité. Au lieu de boire, il considérait avec respect ce verre plein, comme s'il eût contenu quelque élixir mystérieux ou quelque philtre enchanté. Puis son visage changea de nouveau, et un espoir immense s'y peignit, une attente passionnée et l'extraordinaire et misérable tragédie commença. Elle n'eut qu'un acteur, ce visage, et qu'un accessoire, ce verre, tremblant dans une main déjà sénile. C'était à lui que l'homme s'adressait. Il le convoitait de son désir, l'appelait de toute sa passion, le suppliait de toute sa détresse, le repoussait de toute sa colère, l'invectivait de toute sa haine, lui revenait repentant et rejetait avec dégoût. Il l'adorait et le détestait. Ce visage insignifiant, quelconque, était devenu d'une inépuisable éloquence. Sans masques s'y succédaient en leur vivante diversité, et je demeurais stupéfait devant ce spectacle énigmatique, devant cette surprenante pantomime faciale dont je ne m'explique pas le sens. Mais qui était cet homme et quel hasard l'avait fait entrer dans ce bar? Qu'implorait-il de ce verre d'alcool qu'il suppliait, maudissait et adorait tour à tour? Venait-il lui demander de lui rendre l'illusion de son passé, de revivre par lui sa vie manquée, sa vie perdue, sa vie magnifique peut-être, sa vie douloureuse et terrible, sa vie dont la déchéance et la chute avaient eu pour cause ce poison qu'il tenait dans sa main déjà sénile? Était-ce un appel à un dieu puissant ou le geste d'obéissance à un démon détesté? Qu'en savais-je? Mais je regardais avec une émotion poignante cette sorte de confession muette qui déroulait à mes yeux ces tragiques péripéties. Et le plus singulier, c'est que personne des assistants ne faisait attention à cette scène dont l'acteur demeurait à tous comme invisible et inexistant. Autour de lui, les gens continuaient à causer, les barmen à servir, la lumière à ruisseler. Maintenant, c'était fini. Elle n'éclairait plus qu'un homme debout, proprement et pauvrement vêtu, dont le visage était redevenu médiocre et insignifiant, et qui, ayant reposé sur le comptoir son verre qu'il n'avait pas vidé, se dirigeait vers la porte de cette même allure lasse et morne qu'en entrant, comme s'il avait compris qu'il n'y a pas de filtre qui nous rende à nous-mêmes, ou peut-être intérieurement fier d'avoir affronté et dédaigné le démon dont il avait tenu entre ses doigts crispés, à portée de ses lèvres, le délice empoisonné. Certes, j'aurais pu me renseigner sur cet inconnu. Tout se sait à Venise, et l'indifférence des habitués du bar Catamuzzi prouvait que ce n'était pas la première fois qu'ils étaient témoins de cette scène. Elle avait dû même se renouveler souvent. Mais je préférais croire qu'elle avait eu lieu pour moi seul. Aussi ne suis-je jamais retourné à ce bar Catamuzzi pour mieux garder le souvenir de cette bizarre et énigmatique apparition. J'aurais pu bâtir là-dessus tout un roman, mais j'ai mieux aimé évoquer sans commentaire, en sa poignante réalité, l'étrange passant qui s'est montré un instant à moi, parmi l'étincellement des nickels et des cristaux, sous la lumière violente et dure d'un lieu crûment et banalement moderne, le plus moderne et le moins vénitien assurément de cette Venise, qui mêle désormais pour moi au fantôme de son passé, cette figure sans nom et ce visage sur lequel se joua le cabotinage peut-être d'un maniaque ou le tourment pathétique d'une âme misérable et douloureuse.